et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Maniakiza avec vous, Michel Claire-Joseph assure la réalisation. Nous partons à la découverte des pratiques funéraires musulmanes à travers l'histoire et plus particulièrement à travers le tombeau des Askia. Situé à Gao, au Mali, ce monument emblématique de l'Empire Songhaï, érigé à la fin du XVe siècle, et non seulement le lieu de sépulture d'Askia Mohamed, mais aussi un témoignage vivant de l'importance de l'islam dans la culture et les traditions de cette époque. Aujourd'hui, avec nos deux invités, nous allons explorer les rites funéraires musulmans tels qu'ils étaient pratiqués à l'époque d'Askia et comment ces traditions ont façonné la construction et l'utilisation de ce tombeau qui est bien plus qu'un simple édifice. Encore une fois, bienvenue. Nous avons Lassana Cissé en ligne. Il est expert en patrimoine et développement local, président actuel du Comité national malien du Conseil international des monuments et des sites. Monsieur Cissé, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Eric, merci et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à nos fidèles auditeurs.
Merci. Nous sommes également en ligne avec Mohamed Abelari El Khalil, promoteur du Symposium du Sahel pour l'éradication de l'extrémisme violent, religieux et du terrorisme. Mohamed, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur Eric. J'espère que je vous parle depuis Ségou, la région de Ségou.
Merci beaucoup d'être avec nous. Monsieur Cissé, je vais commencer avec vous. Voudriez-vous nous donner un aperçu des rites funéraires musulmans pratiqués à l'époque d'Askia, Mohamed, et comment ils étaient intégrés dans la culture de l'Empire Songhaï?
Merci bien pour cette question très intéressante. En fait, les rites funéraires musulmans, ont intégré des pratiques locales sur le plan du funérailles et autres depuis la période du commerce en saharien. Depuis les brassages, les rencontres entre les nord et le sud, comme on l'a dit. Concernant Gao, le tombeau des Askia, vous venez de le rappeler, c'est un monument emblématique. C'est un témoignage de la présence de l'islam en terre songhaï et en même temps un fruit des échanges créatifs entre les civilisations des peuples arabo-berbères, l'Égypte ancienne et la culture songhaï. La construction d'un tombeau de forme pyramidale, inspiré visiblement des pyramides d'Égypte, et la persistance jusque dans les années 1970 des rites animistes sur le site, c'est-à-dire la même place tout autour du tombeau, et notamment sur le site de la pierre blanche, le Tondikara, comme on l'appelle à Gao, et qui a miraculeusement disparu, je ne sais pas si ça a été retrouvé, et notamment le rite d'intégration dans la communauté qu'effectuait toute nouvelle mariée en faisant cette fois le tour de cette pierre. Il y a souvent la superposition des croyances, syncrétisme religieux qui s'installa dans l'Empire. Et vous l'avez dit, le tombeau a été construit en 1595, après suite au pèlerinage d'Askia Mohamed et à la Mecque. Et le tombeau, c'est à la fois les bâtiments fonctionnels et qui témoignent jusqu'à présent de la puissance de l'Empire Songhaï, mais aussi des manifestations des pratiques immatérielles locales qui n'ont jamais cessé. C'est fondamentalement ça que je voulais développer, mais les rites funéraires et musulmans et les rites anciens pratiqués par les communautés songhaï, donc il n'y a pas eu de contradiction, encore moins de superposition violente. Et donc je crois que ces rites ont été acceptés de part et d'autre, tant par les juridiques de l'Empire Songhaï que par la population locale. Voilà ce que je pouvais dire sur ce point.
Merci beaucoup. Mohamed, quelles sont les spécificités des rites funéraires musulmans, notamment en ce qui concerne le traitement du corps et les cérémonies autour de l'inhumation, et comment ces pratiques ont-elles influencé la conception du tombeau des Askia?
Alors, tout d'abord, je dirais bonsoir à mon cher Aimé Cissé depuis Bamako. Bonsoir Edic, c'est une question pertinente parce que l'islam accorde une grande valeur à l'être humain, au corps de l'être humain, même l'absence de l'âme. Et les rites funéraires en islam, après la mort de l'être humain qui est musulman, l'islam le recommande vraiment de nettoyer le corps. Tout cela, c'est pour se débarquer des autres pratiques en disant voilà, parce que cet être humain va à la rencontre encore de son Seigneur. Et ce voyage-là est minutieusement préparé. On le lavera, on fera le lavage de là-bas, ce qu'on appelle la gravation à la personne. Le mettre de bons parfums, des bons encens, afin que la personne sente bien. On le met dans un habit également extraordinaire, qui avant était fait du coton 100%. Maintenant, on le fait avec du percale, c'est pas aussi mauvais. Et enterrer la personne. D'abord la prière. Et la prière est faite en présence des êtres humains. Il y a aussi des significations dans tout ça. Le fait même d'appeler les gens à prier sur la personne, c'est pour demander pardon auprès du Seigneur, faire l'intention de la personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de son Seigneur, en demandant à Dieu de lui pardonner dans chaque, comme on appelle, dans chaque takbir, à chaque fois qu'on dit Allah Akbar, il y a après la récitation de la Fatiha, et Allah Akbar, c'est pour vraiment faire des bénédictions en faveur de la personne. Également prier sur le prophète. Et la dernière, c'est pour faire la bénédiction pour la personne et pour nous-mêmes qui sommes toujours là et qui n'ont pas encore pris le chemin. Donc, un peu, quand nous regardons la tombe des Askia, vous voyez la façon dont ces tombes sont érigées, c'est pour vraiment nous souvenir la communauté, appeler toute la communauté à savoir que, quelle qu'en soit notre force, quelle qu'en soit notre puissance, un jour nous sommes appelés à disparaître, nous sommes appelés à congédier, nous sommes appelés à laisser notre place à d'autres personnes. Voilà un peu le sens que je vois dans cette sphère pour les, comme on appelle, islamo-gouvernemental.
Oui. Mohamed, vous dites que l'islam accorde une grande importance à la simplicité et à l'humilité dans la mort. Comment cela se reflète-t-il dans les rites funéraires musulmans et en quoi le tombeau des Askia représente-t-il ou non cette philosophie?
Le tombeau des Askia d'abord reflète d'abord la sagesse, reflète l'humilité, reflète le pardon, reflète l'entraide, reflète ce qu'on appelle le fait de vivre l'existant. On est là tout de suite, c'est de ça que nous vivons. Et donc quand nous voyons la façon, l'humilité qu'il y a dans les rites funéraires de l'islam, et on regarde au centre-ville, c'est-à-dire comme on l'appelle, dans cette zone où il y a le tombeau des Askia, à chaque fois qu'on pose un regard sur ça, on nous rappelle la mort, ça nous rappelle la puissance de l'être humain, ça nous rappelle Askia Mohamed, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a pu faire. Aujourd'hui, pourquoi il n'est pas là? C'est pour vraiment cultiver cette faculté de patience, de pardon, d'humilité dans l'esprit, c'est-à-dire de toute la population.
Monsieur Cissé, le tombeau des Askia est considéré comme un monument funéraire exceptionnel dans la région, n'est-ce pas? Comment l'architecture du tombeau reflète-t-elle les croyances religieuses et les pratiques funéraires de l'islam à cette époque?
Merci pour la question. Au plan architectural, vous l'avez dit, le tombeau des Askia, c'est un exemple éminent du style de construction style dit soudano-sahélien, qui se caractérise par des formes arrondies, et ces formes-là résultent du renouvellement régulier de la couche d'enduit érodée à chaque hivernage par les pluies rares mais violentes. Et c'est le cas à Djéné, la mosquée de Djéné, il y a toujours une grande fête de crépissage à Tombouctou. Pour les mosquées, c'est la même chose. Donc la forme pyramidale du tombeau, qui en réalité n'abrite pas le corps d'Askia Mohamed, comme on l'a dit ou comme c'était prévu au départ. Sa fonction de minaret central, ainsi que la longueur et la forme des pièces de bois composent l'échafaudage permanent, apporte au tombeau des Askia des caractéristiques architecturales uniques. Donc culture constructive locale, comme on l'a dit, la culture c'est le don et l'emprunt, Et il y a des savoir-faire qui viennent d'ailleurs, qui se sont bien arrimés aux savoirs locaux. Donc l'édifice comporte deux espaces. Parce que quand on parle de tombeau de Bastia, il y a deux espaces de prière, j'allais dire, construits autour de la tour pyramidale. Il y a la mosquée des femmes et la mosquée des hommes. Par la présence de ces tours qui rappellent de par sa morphologie la pyramide à degré de la, comment on appelle ça, de le truc d'Égypte, la Saqqara d'Égypte, et qui sert de minaret central à la mosquée, les sites montrent de façon forte la rencontre et le métissage de la culture songole ancienne avec les cultures arabo-berbères égyptiennes. Personne ne connaît l'emplacement exact de la tombe du souverain de l'Empire songol. Tout le monde sait qu'il est enterré quelque part dans l'espace là-bas, mais personne ne peut te dire c'est là qu'il est enterré. Et cette situation n'est pas rare dans l'histoire, même l'histoire récente. Sékou Touré, le président de la Guinée, quand il est mort, et les gens disent qu'il est resté à la Mecque, et on a enterré à la Mecque ou à Médine. On dit que le cercueil qui est venu, il y avait rien dedans, il y a beaucoup de spéculations. La raison est simple, en Afrique, en Afrique ancienne, par précaution, le lieu d'enterrement des personnes célèbres était tenu secret, de peur d'éventuelles profanations de leur tombe. Il convient de souligner que les alentours du site ont accueilli du temps des Askia jusqu'en 1989 les sépultures des différentes communautés songo et des Gao. Je précise bien les communautés songo, tous les chefs songo sont enterrés jusqu'à présent là-bas. Ceci dans le souci de les enterrer non loin du souverain, qui est quelque part est enterré. Donc vous voyez le lien très fort et qu'on accorde à la personne de l'Askia Mohamed, sa protection, même moi, et les pratiques qui continuent, les pratiques et rites musulmans et pratiques culturelles funéraires. Donc c'est les deux vont ensemble, vont de pair. Et comme vient de le dire Mohamed, hein, l'islam a apporté quelque chose d'important, c'est que les rites funéraires, on rend hommage, le corps est entretenu, quand bien même enterré, on continue à faire des prières. Et c'est la même chose, il y a des funérailles, c'est traditionnellement, c'est aussi rendre hommage aux défunts. Et donc il y a eu un croisement, une rencontre, j'allais dire enrichissante, une diversité sur le plan d'expression rituelle en ce qui concerne les rites funéraires. Je vous remercie.
Vous écoutez le dialogue des religions, Eric Manilakiza avec vous au micro. Nous découvrons les pratiques funéraires musulmanes à travers l'histoire et plus particulièrement à travers le tombeau des Askia. Nous sommes avec Lassana Cissé, expert en patrimoine et développement local, le président actuel du comité national malien du Conseil international des monuments et des sites. Et nous sommes également avec Mohamed Abelari El Khalil, promoteur du symposium du Sahel pour l'éradication de l'extrémisme violent, religieux et du terrorisme. Michel Claire-Joseph assure la réalisation de cette édition. Mohamed, les rites funéraires musulmans incluent des prières spécifiques et des gestes symboliques. Quels sont les éléments les plus marquants de ces sites et de ces rites plutôt, et comment sont-ils encore pratiqués aujourd'hui autour du tombeau des Askia?
Alors, ces rites-là sont des pratiques inchangeables dans toutes les communautés islamiques. Quand on prie sur le corps d'un être humain qui est mort, les rites ne changent pas. Mais la récitation de certaines bénédictions ou l'invocation ou certaines lectures peuvent changer selon, comme on appelle, les quatre grands imams. Et sinon, les rites, c'est d'abord la soumission, nous-mêmes qui sommes là vivants, qui sommes en train d'aider cette personne vraiment à aller à sa dernière demeure, nous soumettons d'abord aux règles de Dieu. Vous allez voir, vraiment, c'est une sorte d'accalmie, de sérénité, de tranquillité d'esprit autour de ça. Et autour de la tombe des Askia,
Vous voyez, c'est toujours, j'ai toujours eu ce courage de le dire. C'est-à-dire aujourd'hui, à cause de ces espaces-là, qui par exemple l'espace de Tombeau des Esclaves, ça peut être pour nous des facteurs vraiment d'aller vers la cohésion, c'est-à-dire sociale, à travers, c'est-à-dire la mise en valeur de nos pratiques religieuses, je dis bien, pour vraiment aller vers la cohésion sociale et la paix dans nos sociétés.
Monsieur Cissé, quelle est la signification religieuse du lieu en tant que site de sépulture pour Askia Mohamed et comment ce type de tombeau a-t-il influencé les pratiques funéraires et architecturales dans la région de l'Afrique de l'Ouest?
Merci beaucoup. En fait, le site, tombeau des Askia a toujours joué un rôle fondamental dans l'islam à Gao. C'est connu. Déjà, Askia Mohamed l'utilisait comme lieu de prière. Il y a encore ce grand espace de prière, le jour de Tabasti, où il y a une grande fête, le jour de la Tabasti. Et d'ailleurs, d'où l'appellation Askia Gira, qui littéralement veut dire en Sora, et la mosquée de l'Askia. Cette dénomination est loin, et de loin celle que préfère d'ailleurs la population du Gao. L'appellation Tombeau des Askia n'est remontant d'après les informations au début de la période coloniale. Le caractère fédérateur du tombeau des Askia s'est concrétisé par le passé, par la participation des maçons venant de la zone du delta intérieur du Nil, la région du Bashina, et des représentants de toutes les ethnies à la construction de la tour pyramidale. Alors, il s'est perpétué par l'entretien régulier, réflexion de l'enduit, comme je l'ai dit tantôt, et les grandes prières de la fête des Tabaski organisées sur l'esplanade adjacente appelée la place des grandes prières. Vous voyez, donc il y a un lien fort entre l'espace, donc la construction, et la pratique de l'islam qui n'a jamais insisté, qui manifestait localement l'islam à Gao, à Tombouctou. Et ces événements rassemblent périodiquement toute la population de la ville de Gao. Mais c'est également le théâtre d'autres activités culturelles, telles que les cérémonies religieuses de mariage, les festivals des arts de la culture songoy, les fêtes commémoratives de grands événements du pays, comme la fête de l'indépendance du Mali, célébrée le 22 septembre chaque année. Et vous voyez, les liens entre culture et place, la place monumentale du tombeau des Askia. Et donc, ces liens sont, il y a un lien fort. Voilà ce que je peux vous dire pour répondre à cette question.
Oui. Merci. Mohamed, en quoi les pratiques funéraires musulmanes dans le cadre du tombeau des Askia reflètent-elles à la fois une continuité des traditions islamiques et une adaptation aux réalités culturelles de l'époque et de la région?
Oui, vous savez, Askia Mohamed et ses conseils spéciaux à l'époque, c'est-à-dire si je dis ces conseils spéciaux, les conseils d'ordre religieux et les conseils également militaires qui étaient autour de lui, étaient des visionnaires. Ils ont su bâtir, comme on appelle, cette architecture vraiment incroyable, le fait toujours de pouvoir conserver et nous pousser la société, mettre la société dans un cercle, toujours à réfléchir que voilà, c'est nos cultures qui priment, c'est notre foi qui prime, et à travers ces éléments, la foi et la culture, nous ne pouvons jamais se tourner l'un contre l'autre. C'est pourquoi aujourd'hui, je profite de ce micro d'appeler les Maliens, vraiment toujours penser à cette architecture afin de faire la paix avec nous et entre nous. Parce que les grands-parents, nos ancêtres ont travaillé en ce sens. Les actes qu'ils ont posés, c'était des actes vraiment d'unifier le peuple. C'était des actes vraiment de pousser les cœurs à s'aimer, à s'intéresser une seule personne, une seule âme dans un seul corps. Et voilà un peu, quand vous regardez aujourd'hui les lieux de prière qui a été bâti au sein même de cette architecture, c'était pour un peu appeler la population de temps en temps, se réunir dans ce lieu, afin qu'on sache que nous avons le même problème, les mêmes soucis, tout ce qui arrive dans notre communauté, nous devons l'accepter ensemble et essayer de trouver des solutions ensemble.
J'ai la même question pour vous. En quoi les pratiques funéraires musulmanes dans le cadre du tombeau des Askia reflètent-elles à la fois une continuité des traditions islamiques et une adaptation aux réalités culturelles de l'époque et de la région?
Est-ce que les pratiques funéraires sont effectivement une continuité des traditions islamiques?
telles que vécues par les populations depuis sous l'Empire songhaï, ça existe encore. Elles n'ont jamais entravé les célébrations et manifestations culturelles identitaires locales. Hein? Le tombeau des Askias, le monument, sert à d'autres pratiques sociales de lieu, telles que les célébrations, les mariages jusqu'à présent, les fêtes et festivals. Ces événements réguliers ou circonstanciels organisés autour de ce qui est la plus ancienne mosquée de vendredi de la ville de Gao ont un rôle unificateur pour la population. Et en tant que gestionnaire, en tant que professionnel du patrimoine, je veux ajouter que c'est à cause de ces pratiques, ces célébrations et autres, qu'il y a une garantie pour la conservation du site. Parce que la population s'approprie de la protection, de la conservation et de la promotion des sites. C'est heureux d'entendre. Mais c'est là, sans pour autant occulter la dimension rituelle et tradition islamique est localement ancrée au sein de la population.
Oui, au niveau de la population, et comment cela est-il adapté aux réalités culturelles de la région? Voilà, là, je parle de l'Empire songhaï.
Oui, c'est-à-dire les traditions sociales sont jalousement conservées par les populations de Gao parce qu'il y a une fierté d'appartenir, d'être héritier de cet empire très puissant, reconnu comme l'un des plus puissants en Afrique au sud du Sahara. Et donc les populations sont très fières de ce patrimoine-là. Et c'est-à-dire aucune pratique, l'expérience, en fait, en 2012, quand les terroristes ont voulu détruire le site, les jeunes se sont constitués en bouclier, tandis que les responsables négociaient avec les terroristes pour éviter ce qui arrivait à Tombouctou, c'est-à-dire la destruction des mausolées. Donc les jeunes ont empêché la destruction. Hein? De la tour pyramidale, et c'est un point fort du rattachement des populations à ces monuments emblématiques exceptionnels, uniques d'ailleurs, en ce qui concerne l'histoire de l'Empire songhaï. Et donc, ça ne fait l'ombre d'aucun doute que localement, que ce soit à travers les associations, que ce soit à travers les responsables coutumiers et religieux, ce tombeau est un site vraiment valorisé, protégé et conservé localement. Et c'est la meilleure façon de conserver, un patrimoine, c'est celle menée par les populations locales. Et le président du comité de gestion du site, c'est Ali Badi, qui est très connu, qui mettait beaucoup d'argent dans la conservation des travaux, notamment de crépissage périodique. Il a été, pour l'honorer, il a été enterré dans la nécropole qui est à l'intérieur du site. Et ça, c'est pour dire que les gens restent fortement rattachés, ancrés à ce site-là.
Mohamed, en 30 secondes, un complément.
Toujours vraiment appeler les peuples africains de toujours réfléchir sur tout ce que nos parents ont posé comme acte. Ce sont des êtres qui sont là, qui ont été causés depuis des années, mais qui peuvent aussi être des sources de solutions de nos problèmes actuels, qu'elles soient d'ordre culturel, religieux, politique et militaire.
Merci Mohamed. Le tombeau des Askias nous offre une fenêtre fascinante sur la manière dont les traditions funéraires musulmanes ont influencé la culture et l'architecture de l'Empire songhaï et au-delà dans toute l'Afrique de l'Ouest. À travers les rites funéraires, nous percevons non seulement une approche religieuse de la mort, mais aussi une vision du lien entre la spiritualité, l'histoire et le patrimoine architectural. Merci à nos invités pour leurs éclairages, Lassana Sissé et Mohamed Abdelhari El Khalil. En nous souvenant des pratiques d'hier, nous enrichissons notre compréhension du présent et préservons l'héritage spirituel pour les générations futures. À très bientôt pour une nouvelle exploration du patrimoine religieux mondial. Eric Manelakis a été avec vous. Michel Claire-Joseph a assuré la réalisation de cette édition. Je vous souhaite une agréable soirée chez vous et à la prochaine.